comme on s'en met, si tout le monde a un cours de route, parce que sinon nous ne tiendrons pas le bébé. Fusionner les deux dernières questions. Voilà, parce qu'il y avait encore deux séries de questions, mais que je vous propose de fusionner. Hein. Alors, la première question portait.
Excusez-moi,
le dernier trait. Eh oui, Grenoble, et moins.
Au revoir.
Au revoir, Noël.
C'était bien agréable, monsieur.
Autour des limites de la démarche, le choix des méthodes mises en œuvre, les sources utilisées, ce qu'elles ont produit, ce qu'elles permettent d'atteindre, les difficultés rencontrées, donc en fait quelque chose d'un peu plus méthodologique. Hein. Et puis la deuxième série, mais donc qui va être fusionnée, hein, je vous remercie de faire peut-être un peu plus court que ce que vous aviez prévu, autour du récit historique et des perspectives auxquelles il ouvre, faire parler les sources pour produire un récit, la part de l'engagement, les questions qui se posent. Alors l'engagement, ça peut être l'engagement dans l'éducation populaire, mais ça peut être aussi l'engagement dans le travail de recherche, après tout. La part de l'engagement, les questions qui se posent à l'issue de la publication, les développements possibles. Voilà, donc je propose, je sais pas, quel des deux veut commencer. On va fermer la porte.
Et... Non.
Alors, Franck, j'ai demandé de fusionner les deux réponses.
J'ai une bonne idée.
N'est-ce pas ? Et peut-être Frédéric.
Ok. Pour ce qui concerne les méthodes d'abord, comme c'est une étude historique de discours, même si les gens qui font de l'analyse de discours professionnellement me disent que ce n'est pas de l'analyse de discours, c'est pas assez technique de leur point de vue, je suis tout à fait prêt à l'entendre d'ailleurs. Comme c'est une étude de discours qui veut échapper au caractère impressionniste, genre j'ai lu des discours et voilà ce que ça donne en gros, il y a un premier problème qui se pose, c'est celui du corpus, de l'ensemble de discours à retenir. Alors, comme il s'agit de discours public, le problème, c'est qu'il était hors de question de présenter, même ne serait-ce qu'une sélection de sources pertinentes, c'est-à-dire vu le cadrage chronologique extrêmement vaste et thématique extrêmement vaste, parce que la catégorie d'éducation populaire est floue, eh bien, elle peut se retrouver à pas mal d'endroits. Il était impossible de constituer ne serait-ce qu'une liste de revues dans laquelle je me serais dit, tiens, il y a des chances de trouver des discours sur l'éducation populaire là-dedans. Du moins, pour un travail devant être fait dans une seule vie humaine. Donc j'ai inversé la logique, j'ai travaillé à partir de l'expression elle-même, du mot-clé éducation populaire, dont la présence en particulier dans les titres de discours, les titres d'institutions ou de contextes, d'événements éventuellement, devait servir de critère pour savoir que là il y aurait peut-être un discours intéressant sur l'éducation populaire. Donc, j'ai suivi cette démarche pour un grand nombre de catalogues, d'index divers, bref, de diverses sources où il était possible de trouver de manière systématique des titres. Ou d'ailleurs, quelquefois, des recherches en plein texte quand c'était possible, en particulier dans la presse quotidienne nationale pour les dernières années, puisque tout est numérisé. À côté, il a fallu compléter naturellement, et je l'ai fait de manière, à mon sens, peut-être insuffisante, avec des sources choisies pour éviter de laisser dans l'ombre des choses qui seraient passées en dehors de tout catalogage facilement accessible. Typiquement, aller prendre les revues pour l'après-guerre au moins, enfin pour l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, les revues au moins de trois institutions vraiment centrales dans la production de discours, à savoir la Ligue de l'Enseignement, donc les revues de la Ligue de l'Enseignement, les revues de Peuple et Culture en tant que lieu de production intellectuelle et de formation. Les revues de la FMJC également, pas dans la mesure où c'est un lieu particulier de production intellectuelle. Laurent a montré que c'est plutôt une fédération opérationnelle, dirigée vers les maisons, les équipements eux-mêmes, mais parce que l'attachement de la fédération à l'expression d'éducation populaire fait que c'était un lieu crucial à regarder pour pour savoir, regarder dans les détails pour savoir quelle référence était faite à cette formule. Donc voilà la manière de constituer le corpus. Ensuite, il y a ce qui pose plusieurs problèmes, ce qui pose d'une part le problème du mot-clé, à savoir pourquoi retenir que éducation populaire, alors que le problème c'est bien, la question qui se pose c'est bien pourquoi dans tel contexte on retient, des acteurs retiennent éducation populaire et pourquoi dans d'autres ils préfèrent étiqueter leur pratique culture populaire ou animation ou éducation permanente ou etc. etc. Là il n'y avait pas de solution magique. Pour des raisons de faisabilité, je suis resté centré sur éducation populaire. Seulement de temps en temps, en fonction de contexte historique pour lequel je savais que ça pouvait être pertinent, j'ai donné des coups de sonde un peu plus précis sur d'autres expressions, par exemple sur l'usage de culture populaire en, comment dire, à la fois synonyme, souvent synonyme, mais souvent en léger décalage et décalage de plus en plus accentué par rapport à éducation populaire dans les années 50. Ou pour d'autres, voilà, pour d'autres points de détail comme ça. Ce qu'il faudrait en réalité pour étudier vraiment le lexique pertinent, l'univers lexical pertinent autour de l'éducation populaire, c'est d'une part recueillir et explorer systématiquement des variantes dont on sait, ou des variantes ou des concurrences dont on sait historiquement qu'elles sont attestées, et d'autre part aussi tester des approximations, des expressions qui sont construites selon la même logique et qui ont des chances de rentrer dans des mêmes logiques pratiques en termes d'usage. J'avais commencé à constituer un tableau tout à fait délirant du point de vue des recherches que ça impliquait, qui croisait, là j'en rentrais dans une logique compositionnelle qui n'était pas ma logique à l'origine, mais je pense que provisoirement c'était utile, un tableau donc qui croisait en colonne tous les équivalents de populaires, ouvriers, prolétariens, de masse, publics, social, franchement plein, des travailleurs, du travail, et ainsi de suite. Selon les contextes, il peut y avoir énormément de variantes, d'une part, et en ligne, les variantes possibles d'éducation. Donc, pas tant des variantes que des termes auxquels, selon une logique de thésaurus, une logique d'association d'idées, des termes qui pouvaient être substitués avec une petite transformation. Et au croisement de tout ça, on avait des centaines de variantes, dont certaines sont absolument jamais attestées dans les discours publics, mais certaines sont tout à fait massives. Et les plus connues étant évidemment instruction publique, éducation nationale, mais ça allait à des choses beaucoup plus précises que ça. J'avais commencé à faire ce tableau, ça n'apparaît pas à peine dans la thèse, mais ça fait partie de ces nombreux travaux qu'on laisse en cours de route parce qu'ils sont infaisables en pratique. Mais je pense, et là je saute directement à la question d'un prolongement possible, je pense que ça pourrait être une des manières de constituer une des bases possibles pour un projet dont je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le réaliser un jour, puisque ça ne dépend pas que de moi, ça dépend il faudrait constituer un collectif de recherche. Ça pourrait être une base donc d'un vrai dictionnaire, en fait, c'est un dictionnaire, mais des dictionnaires des usages des mots, un dictionnaire des étymologies sociales, comme on dit en analyse du discours, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation. Pour simplifier, dans le domaine de l'éducation au sens large, c'est-à-dire savoir dans ce domaine particulièrement gourmand en nouvelles combinaisons, en sigles, et tout le temps des moqueries sur la propension de l'éducation nationale à produire des sigles à tout va, mais pas seulement l'éducation nationale, tous les milieux éducatifs. Dans ce milieu-là, il y aura un grand intérêt, à mon avis. Hein.
Des chants chorales. D'accord. Ah. C'est l'éducation populaire. Voilà.
À avoir ce genre de dictionnaire, un dictionnaire qui ne définirait pas qui ne définirait pas les mots, mais simplement recenserait leurs usages des mots sur l'ensemble de leur histoire. Une autre limite qui pourrait peut-être être un autre prolongement, même si là j'ai les idées un petit peu moins claires, c'est la question de, une fois qu'on a constitué ce corpus, qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire quelle méthode d'analyse on applique. C'est pas tout d'avoir le corpus, évidemment, pour en faire quelque chose. Ma méthode à moi a été assez classique pour le coup et qualitative, au sens où ultimement il y a quand même beaucoup d'exercices de lecture et d'interprétation. Alors d'interprétation corrélée souvent avec la connaissance des trajectoires des acteurs, avec la connaissance des fois fines des contextes institutionnels, ce qui évite de rentrer dans l'herméneutique pure, genre ah, ça aurait pu vouloir dire ça, on va dire que ça voulait dire ça, même si ça a pu arriver que je le fasse dans ma thèse. Maintenant, pour aller plus loin dans cette démarche-là, il aurait fallu croiser peut-être avec des démarches d'analyse quantitative du discours de type lexicométrie, même si j'ai fait beaucoup d'expériences dans ce sens, et il n'y a rien qui a donné grand-chose, qui a donné grand-chose pour l'instant. Et aussi une approche également quantitative, c'est pour faire plaisir à Laurent, une approche également quantitative des auteurs, c'est-à-dire que j'ai passé un temps considérable à constituer une base de données des intervenants en matière de discours sur l'éducation populaire dans les années 90-2000, en relevant systématiquement dans quel cadre ils étaient intervenus, etc. Et qu'au final, j'en ai pas fait l'exploitation que je voulais, qui était une exploitation quantitative sous la forme d'une analyse factorielle, sans entrer dans les détails techniques, c'est-à-dire d'une méthode d'analyse géométrique de données permettant de construire l'espace des positions objectives en termes de ressources, des trajectoires des individus, et permettant de donner une vraie solidité à la reconstitution d'un univers de discours sur l'éducation populaire. Donc ça, ce que je mentionne, je ne sais pas si c'est des limites définitives des possibilités de développement que je pourrais faire ou des possibilités de développement que je ne ferais pas, mais je les mentionne. Terminer sur la question de l'engagement, plusieurs choses à dire, mais la plus importante, c'est, à mon sens, c'est que quelqu'un a observé l'espèce de fossé qui passe entre Franck et moi, entre voilà, un praticien et deux chercheurs en l'occurrence. Et c'est vrai que je la constate en permanence quand je suis sollicité pour intervenir sur des journées d'études, des formations. C'est dans le meilleur des cas en tant que sociologue, historien de service, ce qui est tout à fait ce qui me convient le mieux. Des fois aussi, ça va être une orientation beaucoup plus normative. Récemment, on m'a sollicité, je ne sais pas encore si je vais être en mesure de répondre, pour une journée sur l'éducation populaire. Alors souvent, ça a de la forme des journées, pense à l'éducation populaire, un levier pour un moyen de... Et là, on rajoute l'insertion des jeunes, l'action culturelle, la démocratie, la démocratie locale, quelque chose. Voilà. L'éducation populaire sert vraiment de support de projection, d'aspiration à réenchanter oui, différentes pratiques et différents univers sociaux, des univers d'acteurs. Dans ce cas-là, moi je réponds en général que je suis prêt, tout à fait prêt, si ça intéresse les gens à venir parler de ce que j'ai fait, mais que la dimension prophétique, la dimension normative, la dimension de recommandation et même la dimension prophétique, c'est-à-dire la dimension de prédiction sur en gros quel est le sens de l'histoire, où est-ce qu'on en est ce troisième cycle de l'éducation populaire qui est peut-être en train d'émerger, je maintiens le peut-être. Je suis beaucoup moins à l'aise avec ça, et je pense qu'en fait c'est pas un service à rendre aux gens qui réfléchissent dans les mouvements sociaux au sens large, association et tout autre type de mouvement social. C'est pas un service à leur rendre que de venir en tant que chercheur et de faire à leur place et moins bien le travail d'appropriation en termes d'intérêt pratique. En termes d'intérêt pratique, de valeur, d'analyse d'un contexte et d'une opportunité politique. J'en reste de manière un peu conservatrice et parfois un petit peu, malgré tout, un petit peu marginale, j'ai l'impression, chez beaucoup de gens qui ont travaillé sur l'éducation populaire, qui pour beaucoup sont des acteurs qui ont privilégié, sinon forcément une démarche de recherche-action, du moins un très fort engagement dans les réseaux concernés. J'en reste à une division du travail. Moi, j'ai l'impression que ce que je peux apporter, moi, à cet univers-là, c'est de jouer complètement mon rôle d'universitaire hautain et coupé du terrain, et qu'ensuite, les praticiens en font absolument ce qu'ils veulent, y compris le relier à la poubelle. Voilà. C'est ma vision de l'engagement dans ce domaine-là. Je ne serai plus, alors je te remercie de ta recommandation. Voilà, j'en reste là.
Alors, pour ce qui est des limites de la recherche, bon, je crois que j'avais déjà un peu abordé, donc ça va permettre de gagner du temps. Peut-être par rapport à cette idée de la division du travail qui a été pointée, ou du moins celle de la tribune entre donc praticiens et chercheurs, il me semble qu'une des réponses, c'est l'enseignement, au sens où j'enseigne donc entre autres l'histoire de l'éducation populaire. Mon poste est défini comme ça, et par ailleurs, une partie importante de mon enseignement est autour de l'histoire de l'éducation, alors, en particulier l'histoire de l'éducation populaire. Ça suscite un relatif intérêt des étudiants. Je ne suis pas certain que ça tienne à mes qualités de pédagogue, je pense que fondamentalement parce que c'est effectivement perçu par les étudiants, plus ou moins de manière précise, mais comme une manière de réenchanter effectivement l'univers de l'animation. Hein. Je suis dans une formation où on forme donc des animateurs socioculturels, niveau bac plus 2, bac plus 3, et il y a une forme de curiosité relativement importante pour l'éducation populaire, y compris pour son passé, y compris dans un rapport relativement nostalgique. Et il faut d'ailleurs faire attention à une chose, c'est que, et je le repère assez vite, les étudiants, quand ils arrivent en première année, ceux qui savent ce qu'est l'éducation populaire, c'est ceux qui sont tombés dedans tout petits. C'est-à-dire fondamentalement les héritiers du travail social, de l'animation, qui sont relativement nombreux parmi nos étudiants. Donc un des enjeux du cours de première année, c'est d'essayer de, que ceux à qui soit le mot ne dit rien, soit même fait peur, soient en mesure de s'en emparer. Et de ce point de vue-là, c'est relativement intéressant quand même, me semble-t-il, dans une perspective pédagogique, de se servir de l'histoire. En particulier, je commence par faire un premier cours dans lequel je parle beaucoup d'école, parce que bon, je sais que spontanément des animateurs, ça. Mais de rappeler que voilà, pendant longtemps l'histoire de l'éducation populaire a été très liée à l'école, ça me semble important, quoi. Y compris pour le présent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, ne serait-ce que la réforme des rythmes scolaires, mais aussi ce qu'à un moment a beaucoup évoqué Franck Lepage autour de la repolitisation de la question scolaire, qui est quand même un enjeu important, y compris pour des animateurs. Ça me semble bien que ça puisse se nourrir aussi de la connaissance d'une histoire, des rapports entre ce qu'on met sous le terme éducation populaire et l'institution scolaire. Et d'où, me semble-t-il, l'un des intérêts qu'il y a à défendre la place de l'histoire dans les formations de travail social au sens large, mais aussi, de l'autre côté, à défendre l'intérêt de cette histoire du côté des historiens professionnels, pour qui, d'une part, l'histoire de l'éducation n'est pas un sujet noble, et je pense que c'est plutôt en perte de vitesse. Hein, ça n'intéresse pas grand monde, il faut bien le dire. C'est une réalité. C'est une réalité au sens où aujourd'hui, alors en même temps, c'est peut-être une bonne chose. L'histoire de l'éducation aujourd'hui est faite majoritairement par des gens qui sont dans la discipline sciences de l'éducation, ce qui a des effets positifs au sens où ils se nourrissent d'autres problématiques que celles des historiens. Ça peut avoir l'inconvénient d'affaiblir la position faible de l'histoire de l'éducation dans l'univers de l'histoire au sens des 21e et 22e sections du CNU. Mais moi, j'avais été beaucoup frappé lorsque j'ai eu mon premier poste en IUFM de découvrir que même en IUFM, l'immense majorité des historiens de la 22e section CNU ne travaillaient pas sur l'histoire de l'éducation. Ce qui pose quand même de sérieux problèmes, y compris sur. Ils enseignaient en partie, enfin même très largement, l'histoire de l'éducation à de futurs enseignants des premiers, second degrés, CPE, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu qu'on retrouve. Dans le fait, et là je vais évoquer Françoise, puisque outre qu'elle a fait donc une œuvre d'éducation populaire en matière d'histoire de l'univers des militants, mais même au-delà, elle a aussi très fortement contribué à faire de la question des archives de l'éducation populaire une question forte et à lui donner deux institutions. D'une part, le CNAES pour l'éducation surveillée, on est un peu en marge de l'éducation populaire au sens strict, mais il y a quand même des liens, et Vincent Père est là pour nous le rappeler, son souvenir est là pour nous le rappeler, mais surtout le PAGEP, le pôle des archives des associations de jeunesse et de l'éducation populaire, qui est à un peu plus de 10 ans aujourd'hui, 13 ans, qui est un lieu donc qui a permis de conserver les archives des fédérations nationales d'éducation populaire. Aujourd'hui, il y a 700 ou 800 mètres linéaires, les archivistes résonnent en maître d'étagère hein, d'archives, mais donc il y a des fonds extrêmement importants. Le message a été entendu, relayé par les archives nationales qui ont fait du secteur des archives de jeunesse et éducation populaire un peu un secteur pilote, laboratoire pour leur collecte des archives associatives. Et donc il y a aujourd'hui des archives en volume important, y compris aussi le mouvement qui au départ était très national, donc parisien en France, s'est étendu en province. Ce qui manque aujourd'hui, c'est fondamentalement des gens pour consulter ces archives. Hein, on est dans ce paradoxe où on a des archives, mais par contre, il n'y a pas foule hein, qui se précipite, sauf, et bon, alors en même temps, ça peut être intéressant, des gens qui ne sont pas des historiens, donc plutôt, il y en a un peu en sciences politiques, en sociologie, beaucoup en sciences et techniques des activités physiques et sportives, hein, donc l'éducation physique, en sciences de l'éducation, mais chez les historiens, malheureusement, il y a plutôt aujourd'hui un désintérêt de ces questions. Mais qui ne touche pas que l'éducation populaire, qui touche certaines périodes de l'histoire de l'éducation. Enfin, après, il faudra, je pense, en débattre de manière plus large, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à se battre à la fois dans le cadre des formations, et là, c'est pas trop difficile finalement pour réaffirmer l'importance de l'histoire dans la formation des travailleurs sociaux, mais aussi du côté des historiens pour, disons, faire prendre conscience de l'intérêt d'une histoire de l'éducation populaire, peut-être de l'éducation tout court.
Merci. Bien, Franck.
Moi, les deux questions qu'il faut fusionner
en plus. Alors, il y en a une qui porte, donc évidemment, c'est sur la publication. Donc, pourquoi ? Ça serait plutôt sur la manière d'écrire. Oui, donc, les limites de la démarche, en fait, tu les as données déjà, hein, mais tu peux revenir éventuellement dessus.
Oui, on ne va pas rester sur cette publication.
D'accord. Donc, si tu veux, mais dans ce cas, tu fais ce que tu veux.
C'est un peu l'idée de départ en fait.
Je n'en doute pas.
Non, deux trois remarques quand même. Celui du fossé, c'est très étrange. Enfin, si tu veux, en même temps, enfin, vous nommez le non-dit de cette journée. Enfin, il y aurait un fossé entre les praticiens et les théoriciens. C'est très embêtant, parce que ma révolution est pas près d'arriver. Donc moi, quand je suis arrivé à la FMJC, j'ai pris acte de ce fossé immédiatement. D'abord parce que je me suis retrouvé sur un poste absolument luxueux, c'est-à-dire j'étais intellectuel salarié, j'étais le seul qui était payé pour lire des livres. Le premier nouveau poste depuis 1969 à la FMJC, d'accord. Alors j'ai lu. Et alors, les directeurs de l'UFC ne lisaient pas. Quand j'ai travaillé avec Philippe Mérieux sur le problème de l'INRP, l'Institut national de recherche pédagogique, il m'a dit, est-ce que vous savez combien il y a d'enseignants en France? Je lui ai dit non, il m'a sorti un chiffre hallucinant, je ne sais plus combien de millions. Il m'a dit, est-ce que vous savez combien de livres on a vendus de l'INRP, des livres qui sont faits pour eux? Je lui ai dit non, il m'a dit 1600 en un an. Il m'a dit, les enseignants ne lisent pas. Alors, je dis ça, je ne peux pas le croire. Il m'a dit, les enseignants ne lisent pas, ils ne lisent absolument rien sur la pédagogie, rien sur leur matière, rien sur rien. J'y vais venir voir le directeur de l'UGC.
Les politiques non plus.
Alors peut-être que les politiques non plus, les journalistes surtout pas. Et donc on a bien ce phénomène des intellectuels coupés des praticiens. Et ça c'est vraiment, c'est la merde, excusez-moi. Parce que moi dans les MJC, quand je me suis intéressé au DSQ en 91 et que j'ai commencé à investir...
DSQ, peut-être que tout le monde a un point
en tête. Excusez-moi. Développement social des quartiers, l'arrivée de la politique de la ville, sur laquelle il faudrait faire une conférence gesticulée un jour, qui est le moment où les socialistes ont complètement pulvérisé l'action publique avec une nouvelle compagne. J'ai deux obsessions dans la vie, hein, c'est le PS et la CIA. Et donc, PS, ça veut dire presque Sarkozy. Et donc, je veux dire, on s'égare. Je tombe sur 91 sites en DSQ, DMJC, donc en jusqu'au cou, c'est-à-dire des directeurs qui mettent en œuvre des dispositifs de DSQ, d'insertion, et qui ne lisent rien là-dessus. Or, moi, à l'époque, je lis le livre de Bernard M. sur les dispositifs d'insertion, je lis le livre de Simon Bull, etc. Des livres qui déconstruisent complètement la logique de l'insertion, enfin, qui ont des intellectuels universitaires qui présentent une analyse flamboyante de l'absurdité, de l'obscénité, tout ce que vous voulez, de l'insertion. Et je me dis, mais enfin, si les directeurs disent ça, ça va les armer, enfin, ils vont immédiatement arrêter de faire l'insertion, ils vont faire la révolution, etc. Et en fait, ils n'y arrivent pas, parce que les gens, quand ils rentrent chez eux, ils voient une journée de travail, c'est rare qu'ils se tapent un livre de sociologie. Et donc, mon travail pendant 12 ans à FMJC a été sur ce fossé, en fait. Mon travail, mon obsession de départ, a été de convaincre et les directeurs de FMJC de s'intéresser aux intellectuels, avec une CGTiste, une CGT extraordinairement anti-intellectuelle à l'époque, et d'intéresser les intellectuels à s'intéresser au travail social, c'est-à-dire des universités, à voir comment ça se passe, un projet J, un contrat CAF, enfin toutes ces saletés qui organisent la domination à l'échelle des quartiers. Et donc ce fossé, si tu veux, il reste à combler. Enfin, si j'ai bien compris la thèse de Voltanski, c'est que quand il y a re-réunion entre la critique intellectuelle et la critique sociale, c'est là où on a une révolution. Enfin, ouais. Moi, j'ai failli faire une thèse sur l'histoire du corps des instructeurs d'éducation populaire qui viennent des CTP, qui viennent des CEPJ, qui ne viennent plus rien du tout. Cette thèse a été refusée par Pascal Horry parce qu'il m'a dit... Je veux bien que tu la bornes dans le temps. Je veux bien que tu me fasses les instructeurs de 51 à 67. Si tu viens jusqu'à aujourd'hui, c'est plus une thèse d'histoire. Et j'ai dit oui, mais si je viens pas jusqu'à aujourd'hui, on comprend absolument pas ce qui est en train de se passer politiquement et l'histoire ne sert plus à rien. Enfin, je veux dire. Et il m'a dit va la faire en sciences politiques. Et j'ai dit non, j'ai pas envie de la faire en sciences politiques. J'ai envie de faire une thèse d'histoire. J'ai envie de, moi aussi de me confronter à cette illusion scientifique de l'historien, mais en tout cas scientifique aussi. Et donc il n'a pas voulu. Ce qui fait que j'ai pas fait de thèse. Mais que je me revendique comme intellectuel. Tout à l'heure tu m'as demandé de me présenter, tu as voulu me présenter comme artiste, là c'est une insulte. Donc c'est quoi la différence entre l'intellectuel et l'universitaire? C'est là où ça devient marrant. Et c'est là où on rejoint la question de l'éducation populaire, parce que ma compagne, Alexia Morvan, quand elle passe sa thèse sur une éducation populaire politique, se fait envoyer assez vertement une lettre par on va pas le dénoncer, qui lui dit que c'est absolument insensé de faire une thèse sur l'éducation populaire, puisque une thèse étant par définition le contraire d'une démarche d'éducation populaire, enfin c'est quand même un comble d'utiliser une démarche antipopulaire pour faire une thèse sur l'éducation populaire, et que la forme même de la thèse contredit la possibilité même de travailler sur l'éducation populaire. C'est-à-dire, bon, et le débat est pas outre la discourtoisie du monsieur, c'était assez marrant, parce qu'en fait c'est quoi pour nous, enfin pour nous, pour les gens qui essayent de réhabiliter ce concept, l'éducation populaire, c'est bien de rendre légitime des savoirs illégitimes. C'est-à-dire, c'est bien de se passer de l'autorisation de l'université pour dire j'ai quelque chose à dire, je vais l'affirmer et je vais lui donner un statut de savoir. Moi, quand à la demande des syndicats, il y a Denis qui est là-bas à la salle, donc ils connaissent l'histoire aussi bien que moi, c'est. Quand je me suis retrouvé à interroger des anciens, la première bande des recrutée par Christiane Faure des 42, je me retrouve assez rapidement dépositaire d'une amertume. Tous les gens que j'enregistre me racontent une histoire amère, frustrée, me racontent un échec, me racontent qu'ils se sont fait déposséder de quelque chose, qu'il y avait une grande ambition, qu'elle a été trahie, enfin, un truc. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais de ça, si tu veux? Si tu es à l'université, enfin, si tu veux t'imposer un peu comme. Enfin, tu vois, une discipline rigoureuse historique, tu vas dire, ça n'a pas de statut. C'est un état d'âme d'un acteur qui aurait fait sa propre légende. Moi, je reste dans les archives, je vois rien de tout ça. Et puis, à l'inverse, si tu rentres à fond là-dedans et dans l'empathie, tu vas faire un travail qui va devenir, je ne sais pas pourquoi, militant, etc. Vous vous m'arrêtez quand je suis plus dans le sujet. La lettre d'Henri Gordeau qu'il écrit en 1967, quand il va à Avignon à la Fédération nationale des communes pour la culture, le fameux moment où Roger Planchon réclame tout le pouvoir au créateur, qui est le moment avec Ariane Mnouchkine, etc. Et il y a dans la salle Jautréa, enfin il y a des gens qui sont encore un peu dans des familles mélangées. Et Henri Gordeau écrit une lettre de 8 pages à Jean Nazet, instructeur de livres vivants, et Gordeau dit c'est mort, ça y est, c'est foutu. Ils vont recréer avec la culture des mandarins comme en Union soviétique. Et il dit notre projet d'éducation pure est mort aujourd'hui. Et il écrit une longue lettre dépressive comme ça. Le silence que je peux vous dire. Je veux dire par là que ce qu'on fait aujourd'hui, avec les méthodes qu'on a un peu redécouvertes, les méthodes d'Alinsky, les méthodes des années 70, des choses comme ça, et à travers les conférences gesticulées, ça consiste justement à dire à quelqu'un mais vous avez un savoir, enfin, vous avez 30 ans d'expérience, vous étiez assistante sociale pendant 25 ans, vous partez à la retraite, vous emmenez ça. Ça n'a pas un statut de savoir. Enfin, vous avez un savoir politique extraordinaire sur la façon dont on met des politiques sociales en œuvre dans une ville, mais ça n'a pas un statut de savoir, parce que tant que vous ne passerez pas par l'université pour faire une thèse ou le CNRS, ben, ça n'aura que le statut méprisé d'un état d'âme. Et pourtant, quand vous en parlez à table, vous êtes absolument passionnant. Et donc, on a l'impression de faire de l'éducation populaire en proposant à des gens de transformer leur expérience ou leur état d'âme en un savoir politique partageable. Aujourd'hui, on a une centaine des conférences gesticulées pour vous dire, et puis on en forme 40 par an, puis c'est en train de devenir un mouvement, etc. Et puis ça nous échappe complètement. Et là, ça devient un mythe. C'est-à-dire que là, effectivement, moi, ma petite histoire de Christian Faure, enfin, je veux dire, elle prend des proportions qui deviennent effrayantes. Enfin, je m'attends à tout moment à ce que Biasini me fasse un procès, hein, tu vois, parce que. Ce que je raconte de cette histoire est historiquement pas rigoureux, enfin tu vois, je veux dire, parce que précisément tout ce que Christiane Faure, ce que ces gens-là me racontent quand ils m'en passent, il y a rien de ça dans les archives. Quand je vais à Fontainebleau et je passe des mois dans les archives, je ne trouve pas le mot éducation politique une seule fois. Pourtant ils me parlent que de ça, si tu veux. Donc tu vois cette question du rapport entre le vécu et l'histoire qui est un peu au cœur de ta question sur l'historiographie de l'éducation populaire, elle est vachement intéressante. Hein. Voilà. Est-ce que l'éducation populaire peut être un levier pour l'action? Ce qui est absolument sûr, c'est que en ayant raconté qu'il y a un héritage de gens qui, à plein de moments de l'histoire, ont essayé de se battre contre la domination, l'exploitation, l'aliénation, tout ce que vous voulez, à leur façon. On a aujourd'hui des jeunes gens qui s'autorisent à dire des choses. On a de nouveau des gens qui s'autorisent à militer en se disant « je peux m'abriter sous le concept d'éducation populaire ». C'est-à-dire que ça nous donne une légitimité à agir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Comme si ce concept pouvait de nouveau être fédérateur de gens qui oseraient de nouveau des formes de militantisme qu'ils n'auraient pas osé avant. Enfin, comme s'il y avait, je sais pas quoi, moi, un concept, tu dis une formule qui donnerait envie, enfin, tu vois, qui serait, je sais pas, une autorisation de militer, etc. Et du coup, on a tout un tas de pratiques militantes aujourd'hui, les désobéissants, les anti-pubs et tout ce que vous voulez, etc., qui se mettent à revenir vers ce mot et ce concept en se disant, et si ce qu'on faisait c'était l'éducation populaire, enfin, tu vois. Et donc il est en train de se passer un truc assez curieux, en fait, et assez intéressant du point de vue de l'action collective. Mais alors à quoi sert l'histoire là-dedans? C'est-à-dire, moi je suis allé faire dire à l'histoire des choses. Tu vois.
Le milieu de l'éducation populaire s'appuie depuis presque toujours sur l'histoire. Donc il y a quand même certainement l'usage de l'histoire.
Oui, mais j'ai rencontré assez souvent un usage de l'histoire plutôt démobilisateur, c'est-à-dire qu'il me disait attention, par exemple, tu ne peux pas mettre l'éducation populaire du côté du mouvement ouvrier, c'est impossible, c'est une histoire de classe moyenne, enfin tu vois, et ces trucs-là. Plutôt, ben non, tu ne peux pas toucher à ce concept. Tu vois, et Et donc j'étais toujours très perplexe avec ça. Geneviève Poujol disait, Léo Lagrange ne se revendiquait pas d'éducation populaire, il ne faisait pas d'éducation populaire, il n'a jamais cité de terme. Je dis, si Léo Lagrange fait pas d'éducation populaire, je ne comprends plus rien, tu vois, c'était compliqué. Mais c'est un débat d'historien et d'acteur. Enfin, en tout cas, voilà, en vrai, je me sens perplexe. Je vous sens perplexe. Ça serait intéressant de comparer les pays, parce que là je viens de Belgique. Ils ont un décret sur l'éducation populaire qui s'appelle chez l'éducation permanente, le décret de 67, qui est un décret extraordinairement radical, qui nomme et qui décrit ce que c'est que l'éducation populaire, alors que nous on n'a jamais eu ça en France. Et qui dit que c'est un travail d'émancipation des individus dans lesquels ils doivent être associés à leur propre émancipation. C'est une définition très 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 politique. C'est extraordinaire. Ils ont revisité en 2003 et actuellement ils donnent des agréments à des associations qui font ça. Ils ont retiré à des associations qui ne font plus ça. Et un agrément, c'est 150 000 euros garantis à vie. Attention, c'est une subvention de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'armer le mouvement social. Alors, que ce soit l'État qui fasse ça, et en plus dans une monarchie, ça pose pas de questions passionnantes. En réalité, c'est la monarchie, c'est la République. Mais c'est juste pour dire que la notion d'éducation populaire, elle n'est pas. Tu vois, elle peut avoir juste à quelques centaines de kilomètres de nous une acceptation beaucoup plus ancrée dans l'action collective, beaucoup plus, etc. Enfin. Donc, est-ce que ça peut être un levier pour l'action?
Oui. Tiens, donc moi je propose qu'on revienne à des questions-réponses. Hein. Bon, on a quoi, un petit quart d'heure hein. Un bon quart d'heure, c'est bon. Alors il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été dites dans les trois présentations là, de cette deuxième série. Enfin. Alors bon, si pour revenir sur la division du travail entre praticien, chercheur, entre historien, acteur, je ne sais pas, parce que c'est toujours un. C'est toujours une impasse, cette histoire-là. Mais enfin, bon, vous nous direz. Il a été question de rapport à la nostalgie. Et ça, c'est peut-être intéressant aussi de voir ce que ça peut provoquer. Bon, l'histoire comme pédagogie. On a vu la difficulté des historiens à s'emparer de certains objets, dont l'éducation, et encore plus l'éducation populaire. Et puis ce travail actuel de l'éducation populaire qui serait de transformer l'expérience en savoir légitime qui ne passerait pas par l'université. Et enfin, il y a une question qui a été donnée aussi, je crois que c'est Franck, c'est plus qu'il y a. C'est la question des archives et des lacunes qu'elles contiennent, si je pourrais, les trous qu'il y a dans les archives. Effectivement, les archives ne donnent pas accès à tout, et en particulier à certains positionnements d'acteurs, de certains acteurs en tout cas, et qui ne sont peut-être plus.
Sur ce point précis,
oui.
J'ai toujours dit que si quelqu'un travaillait sur mes archives à la FFMJC, c'est-à-dire sur les choses que j'ai pu écrire pour faire les demandes de subventions à des ministères, des choses comme ça, on serait très très loin de ce que j'avais en tête quand j'ai fait ça.
Bien sûr, mais oui, quelles sont les traces qu'on laisse et quelles sont les traces qu'on garde hein. Donc, ça c'est un. Enfin, on pourra en discuter longtemps, mais enfin bon voilà, je vous renvoie un peu ces réflexions, et puis si, n'hésitez pas, donc, prendre la parole, oui. Vous vous présentez très rapidement.
Jean-Marie Bataille, je suis pédagogue, notamment praticien et chercheur. Je ne sais plus exactement où se poser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, pour regarder sur les questions de la thématique, sur comment aborder la question de l'histoire de l'éducation populaire, je pense qu'il y a sur moi quelque chose qui peut se nourrir de ces deux positions. C'est-à-dire, je pense qu'un praticien, quand il regarde la question, il la regarde aussi avec une sensibilité qui est sa sensibilité d'acteur. C'est-à-dire, il a en même temps en fait de moi, je vais faire les trucs comme ça, là, ah, ils auront une autre situation différente. Et pour le coup, ça permet d'accéder à des compréhensions et à dire, tiens, là, il y a une donnée qui est intéressante. Donc peut-être que ce n'est pas si antipathique que ça, même si ce n'est pas un débat ouvert, ce n'est pas complètement délai. Mais il n'empêche, moi, en tout cas, cette position-là m'amène à m'interroger sur deux petits événements que j'ai repérés par rapport à des bouts de texte que j'ai lus il n'y a pas très longtemps sur cette question-là. un tout petit passage dans le livre de Benigno Cáceres à propos des universités populaires qui dit en fait que le modèle a été cherché, ils sont allés chercher la Ligue de l'enseignement en Angleterre, à Tunbridge Hall, pour ce qui était fait à cette époque-là. Et ce qui est très étonnant, Tunbridge Hall, c'est un centre social, on va dire, et pas rentrer forcément dans une discussion. Et ce qui est fait en France de ce point de vue-là, hein, les universités qui sont populaires qui sont faites en France, elles ne sont pas rapprochées à cette expérience des centres sociaux immédiatement. Il y a une sorte de hors-sol par rapport à l'expérience anglaise, hein, au moment où elle est réalisée. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur, non pas du comparatisme entre deux pays, mais finalement à comprendre qu'est-ce qui a été cherché, compris de l'expérience anglaise, ramené en France et pas complètement repris en entier. Ça peut aider éclairer sur moi ce que j'ai en France. Deuxième texte qui me paraît moi, très très surprenant, parce que très peu je trouve est évoqué, c'est la thèse de François Blotelier, qui s'appelle Loisirs oubliés, éducation populaire. Et dans l'introduction, il y a quelque chose quand même assez précis et dit de sa part, comme quoi l'éducation populaire n'a surtout pas comme mission de former le peuple. Enfin, il ne faut surtout pas que ça joue ce rôle-là. Il y a cette tension évoquée entre le capital et le travail, enfin entre ces deux mondes, elle existe textuellement, elle est marquée, et dans un texte qui n'est quand même pas un texte marginal par rapport au champ. Et c'est très étonnant qu'on ne relève pas cet élément là du champ, qui est un acteur aussi important, puisqu'il n'oublions pas, il sera responsable de la caisse de consignation, une banque, et il sera à l'origine quand même du développement des équipements socioculturels en France. Donc, je pense que cette tension capital-travail, elle est aussi alliée. Enfin, elle n'est pas. C'est à nous aussi d'avoir cette logique-là, d'une lecture. Elle est possible comme lunette pour regarder cette histoire. Et je pense qu'elle peut nous renseigner aussi, finalement, d'une expérience et de la manière dont elle est possible.
D'accord. On prend trois questions, il y a des réponses, puis après on verra ce que ça donne. Oui, Rebecca.
Rebecca, bonjour, je suis historienne d'éducation et c'est plutôt une remarque parce que j'ai entendu un bon écho à ce que disait Laurent. C'est vrai que l'histoire de l'éducation populaire, je l'ai découvert vraiment l'an dernier en faisant un recrutement sur cet affichage-là et que du coup il y a vraiment un travail à faire au niveau des historiens. Un peu plus conscient de ce qui est un peu hors d'école. Alors, on est très nombreux à le constater. À vous écouter, je réagis plutôt comme historienne des femmes, parce que je retrouve beaucoup les mêmes thématiques entre moi qui fais l'histoire de l'éducation des filles et puis des féministes qui militent pour promouvoir l'égalité. Et c'est là où je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un pays où quand même beaucoup de gens sont assez convaincus que l'histoire a un sens. Alors, ils peuvent avoir un rapport nostalgique avec ce passé, un rapport nostalgique aux archives, etc. Mais au moins, ils le pensent comme quelque chose qui est important. Et du coup, ça donne quand même toute la place à cette histoire de l'éducation populaire. Bon, j'avais envie de témoigner d'un des exercices de publication qui a le plus posé le problème et qui a de loin eu le plus d'impact. C'était une demande d'une revue, d'une maison d'édition, de faire un ouvrage à partir d'archives sur l'histoire de l'éducation des filles. Et donc on a travaillé avec un iconographe, donc c'était très les archives d'éducation des filles, avec des très courts textes. Moi-même et François Thébault pour essayer de restituer sur 100 ans cette histoire. Et bien, ça a été compliqué parce que l'éditeur voulait vendre, hein, et donc avait une certaine vision aussi de ce qu'il allait vendre, et moi, j'avais une position d'historienne qui voulait vérifier que les archives étaient toujours la bonne date, pas utilisées de manière anachronique et tout ça. C'est quand même le livre qui s'est de loin vendu le plus, qui a eu un impact, les gens ont voulu en parler, j'étais invitée aussi soutien dans des associations de féministes, que, bah, disons, ça a eu un effet démultiplicateur vraiment très, très surprenant. Donc, j'ai bien compris que ce n'est pas quelque chose qui soit de l'ordre de la Sainte Anne, alors peut-être pas la Sainte Anne, mais ce type d'ouvrage qui aurait, il faut les deux, mais qui aurait un vrai sens.
Merci.
Très bonne suggestion. Une troisième intervention ? Non ? Oui ? Vas-y.
Arlène. Je n'ai pas du tout entendu.
Je n'ai pas dit qui tu étais.
Parlez-vous de mon ex-tout ça, et ayant travaillé à l'INEP, Institut National d'Éducation Populaire. Donc, connaissant assez bien la vie de l'éducation populaire des années 60 à 75. Et je n'ai pas du tout entendu parler, dans vos travaux de recherche, de l'exploitation des archives orales. Il y en a pourtant. Par contre, c'est long. C'est très long. Enfin, ça,
l'INEP, il y en a, c'est ça?
Hein? Tu dis qu'à l'INEP, il y en a. Ah, enfin, l'INEP est devenu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est vrai. Moi, j'étais documentaliste là-bas. Donc, j'ai récolté les premières archives, etc., pour les cultures et tout, qui ont été déposées à l'INEP, parce que c'est pour les mêmes.
C'est un sous-sol obscur.
Absolument. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un secteur audiovisuel, je ne me souviens plus de la. Qui enregistrait régulièrement les animateurs qui l'aiment.
Donc, il y a des gisements d'archives audio qui ne sont pas utilisés.